Et pour asseoir, nous allons, sans plus tarder, incliner nos têtes dans la prière pour nous préparer à recevoir sa parole. Prier également pour l'outil dont le Seigneur va se servir pour nous communiquer, nous transmettre sa pensée. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, et le plus grand miracle que tu as opéré en nous, c'est de nous avoir délivrés du pouvoir des ténèbres. Seigneur, de nous avoir fait passer de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, d'avoir fait de nous, Seigneur, de nouvelles créatures en toi. Merci, merci de tout cœur pour tout. Merci, Seigneur. Après ce moment de louange et d'adoration, nous aimerions nous asseoir avec humilité à tes pieds et te tendre une oreille plus qu'attentive pour recevoir ta parole. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Et donne-nous d'avoir de bonnes dispositions de cœur, afin qu'aussitôt que cette parole nous l'aurons reçue, qu'elle puisse, Seigneur, descendre dans notre cœur, et qu'elle puisse germer, ô Dieu, ensuite produire du fruit pour ta gloire. Merci de venir également ton serviteur et ton peuple ici présent, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons, sans plus tarder, nous tourner vers la parole de Dieu pour suivre notre pèlerinage à travers la parole, à la recherche de la compréhension, du savoir dont nous avons besoin en ce qui concerne l'Église de Jésus, cette Église, cette assemblée locale qui est appelée à être un lieu qui accueille régulièrement la vie de l'Esprit, un lieu où la vérité est proclamée, un lieu où les gens viennent avec des fardeaux, viennent avec toutes sortes de problèmes, viennent liés, enchaînés par l'ennemi, et puis ensuite repartent complètement délivrés. Oui, nous voulons que l'Église, l'Assemblée locale, soit le Bethel du Dieu vivant. Alléluia. Église de Jésus, Bethel ou Bethaven, je crois que c'est le 8e épisode. Hein? Voilà, très bien, merci. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont attentifs, hein? Et donc voilà, nous allons relire pour la dernière fois notre passage du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous allons aller à la rencontre de l'apôtre Paul lorsqu'il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse à Milet alors qu'il était en route pour Jérusalem. Et là, il va leur donner une sévère mise en garde prophétique. Il va les appeler à veiller non seulement sur le troupeau, mais d'abord et avant tout sur eux-mêmes, car ils étaient aussi et surtout brebis du troupeau du Christ. Acte 20, à partir du verset 17, la Bible nous dit: « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit: « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où je mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots de Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. » Maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront de loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous, s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses, des paroles tordues, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Pendant 2 dimanches, nous avons essayé d'attirer notre attention sur cette mise en garde prophétique que l'apôtre du Seigneur adresse aux responsables de l'église d'Éphèse. Mise en garde, mes amis, qu'il adresse à ces hommes que le Saint-Esprit avait établis comme évêques, comme surveillants sur le troupeau du Seigneur, sur l'église, cette église qui lui appartenait, qui lui appartient, cette église qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Et donc, c'était important de pouvoir sensibiliser ces anciens, de pouvoir sensibiliser ces responsables par rapport à la nécessité de veiller d'abord sur eux-mêmes et puis ensuite sur le troupeau. Veiller pour que l'église d'Éphèse soit toujours, une église où Dieu travaille puissamment, une église où la vérité est proclamée, une église où la vie de l'Esprit coule abondamment, une église, mes amis, où tous ceux qui sont liés par toutes sortes de liens, tous ceux qui sont asservis à des choses terribles, horribles, des choses immorales, que tous ces gens-là, en venant, puissent trouver au sein de cette église, la libération par rapport à leur fardeau, la délivrance par rapport à leur lien, etc. Il était donc important qu'ils veillent. Eh oui. Telle, mes amis, est la responsabilité de tout celui que le Seigneur a fait lever du milieu de son peuple, à qui il a donné un certain ministère, que ce soit le ministère d'apôtre, de docteur, de pasteur, d'évangéliste ou autre, de prophète, que ce soit la responsabilité d'anciens, de diacres et diaconesses, tout celui qui a quelque part une responsabilité assumée dans le corps du Christ doit savoir qu'il est tenu d'abord à veiller sur lui-même. Voyez-vous, à veiller sur sa vie, sur sa communion avec le Seigneur, et puis ensuite à veiller sur le troupeau, à veiller sur l'église locale. Voyez-vous, et nous avons vu comment l'apôtre prévient de manière prophétique que cette église allait connaître des moments difficiles. Il dit, après mon départ, je sais, il est conscient que des loups redoutables, des loups féroces, des loups cruels et ravisseurs s'introduiront dans l'église et feront des dégâts terribles. C'est ce qui va arriver, mes amis, car entre le chapitre 19-20 et le livre de l'Apocalypse, il y a à peu près une cinquantaine d'années, et là, lorsque le Seigneur révèle à Jean sur l'île de Patmos, la première lettre qu'il adresse aux églises, aux 7 églises d'Asie, c'est donc à l'église d'Éphèse. Et quand vous lisez ça, vous voyez que cette église a connu des moments très difficiles. Voyez. Donc, c'était de la responsabilité de tous ceux que Dieu avait fait lever, de veiller d'abord sur eux-mêmes, et puis ensuite de veiller sur le troupeau, afin que du milieu du troupeau, que des gens ne s'élèvent pas pour égarer les brebis du Seigneur, que des prophètes, de faux prophètes, et c'est ça le problème aujourd'hui. Du jour au lendemain, quelqu'un commence à avoir tout le temps des visions, tout le temps Dieu lui parle, tout le temps il a le nom du Seigneur dans la bouche ou cette expression, et malheureusement que les gens utilisent un tort et un travers, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, et du jour au lendemain, il commence à faire le tour des maisons pour attirer les gens, non pas à Christ. C'est ce que l'apôtre dit. Des gens qui se lèveront du milieu de vous dévorants et qui prononceront des paroles perverses, des paroles tordues, dans le but d'entraîner les gens, non pas à suivre Jésus, verset 30, mais plutôt entraîneront les gens après eux. Voyez-vous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire très attention. Très attention par rapport aux troupeaux, par rapport aux brebis, par rapport à nos assemblées. Car dans la plupart des cas, lorsque les responsables ne veillent pas sur le troupeau, lorsqu'ils démissionnent, eh bien, l'ennemi profite pour venir inspirer certains en leur donnant de fausses prophéties, de fausses visions, etc. Du milieu de vous, de vos propres rangs, de votre propre assemblée, s'élèveront des gens qui diront n'importe quoi, s'élèveront des gens qui se mettront à enseigner autre chose. C'est ça le drame aujourd'hui. Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Nous avons le devoir d'aider quiconque tout d'un coup reçoit un ministère de prophète. Voyez-vous? Même là, vous avez besoin d'encadrement. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être enseigné. Le fait que Dieu vous donne un don ne veut pas dire que désormais, vous devez évoluer en électron libre. Vous avez besoin d'être pris en charge. C'est ce manque de prise en charge, cette carence au niveau de l'accompagnement qui fait qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus est de plus en plus secouée par toutes sortes de scandales. Ce manque d'encadrement, ce manque de vigilance de la part des responsables, eh bien, a laissé libre cours à certaines personnes pour pouvoir se lever et entraîner après eux les disciples du Seigneur en les manipulant par de fausses prophéties, par de fausses visions, par de faux enseignements. C'est ainsi que naissent des dérives sectaires. L'Église se doit de veiller là-dessus. C'est avec ces gens pratiques que l'Église, hélas, avec le temps, finit par perdre son caractère de Bethel, de maison de Dieu, pour devenir un véritable Bethaven, un lieu de mensonge, un lieu où on manipule les gens, un lieu où la fausse prophétie, eh bien, est omniprésente. Un lieu où les gens complètement démissionnés par rapport à la parole de Dieu, où les gens ne lisent plus la parole, où les pasteurs ne prêchent plus la vérité, tout le conseil de Dieu, mais se mettent à délirer et à donner des prophéties. Il y a donc des églises où les gens fonctionnent selon la prophétie. Attention. Voyez. La prophétie ne doit jamais prendre la place de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui nous montre. C'est à la lumière de la parole que nous pouvons juger, que nous pouvons évaluer, mes amis, une prophétie, voir si elle est conforme à la parole de Dieu ou pas. Mais aujourd'hui, les gens se laissent mouvoir par des ressorts émotionnels, passionnels. Les gens ont démissionné, ils ont débranché, mes amis, leur cerveau, et ils se retrouvent avec un christianisme fondé en tout sur l'émotivité. Oh, je sens que Dieu me parle. Oh, je sens qu'il y a une prophétie. Je sens ceci, je sens cela. Attention. L'ennemi ne s'accorde aucun répit. L'ennemi travaille pour distraire les responsables. L'ennemi travaille. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Aussitôt que le Seigneur s'est levé pour commencer à bâtir son Église, eh bien, aussitôt le diable s'est aussi levé et a fait lever son armée, armée qu'il a envoyée sur toutes les routes pour arrêter l'œuvre de Dieu. Et il a un outil entre ses mains pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu, c'est la persécution. Aussitôt que l'Église a vu le jour à Jérusalem, aussitôt le diable s'est levé avec ses sbires, avec ses acolytes, et s'est mis à persécuter l'Église de Jésus-Christ. Il en a été ainsi dans le passé, il en est encore aujourd'hui, il en sera jusqu'au retour du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la présence de ces esprits séducteurs, de ces hyènes spirituelles, de ce loup ravisseur qui essaye par tous les moyens d'arrêter l'œuvre de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. L'Église va poursuivre sa marche triomphante jusqu'au retour de son maître. Alléluia. Peu importe la persécution, peu importe l'attitude de gens aujourd'hui, peu importe la tiadeur qui frappe de plus en plus certains chrétiens, une chose est sûre, il y aura toujours un reste qui restera fidèle au Seigneur. Et à partir de ce reste, Dieu peut amorcer un réveil. Et ça, c'est ma prière. Et nous avons terminé la fois dernière par cette déclaration magistrale du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Moïse. Déclaration que nous trouvons dans Ésaïe 43, verset 13. « J'agirai, qui s'y opposera ?» Mes amis, c'est une chose terrible. Je reviendrai là-dessus une fois. Une chose terrible de se mettre en travers de la route du Seigneur. Une chose terrible de se lever pour contrecarrer le plan de Dieu. Vous allez au devant de la mort. Il y a des civilisations qui ont persécuté les chrétiens, qui ont tué les disciples du Christ. Eh bien aujourd'hui, ces civilisations ont disparu à tout jamais. Voyez-vous. J'agirai. Et il continue d'agir sur cette terre. Et la plus grande œuvre de Dieu sur cette terre, c'est le salut des âmes. Voilà pourquoi l'Église se doit de prêcher, d'annoncer l'Évangile. Voilà pourquoi l'Église se doit d'implanter d'autres assemblées, de créer des lieux où les nouveaux convertis peuvent se retrouver pour s'édifier mutuellement, pour écouter la parole de Dieu, pour grandir, pour croître dans la connaissance. Et nous allons donc continuer et terminer, pardon, avec ce passage. Nous voyons que l'apôtre Paul appelle les responsables. C'est d'abord les responsables qui sont concernés. Voyez, nous en parlerons plus tard quand nous allons essayer de voir la condition de l'Église à partir de cette lettre que le Seigneur a adressée à cette Église d'Asie. Eh bien, nous verrons. Nous verrons ce qui se passe. Le Seigneur, Paul appelle responsable à la vigilance. Voyez, la vigilance, c'est quoi? C'est une surveillance soutenue et attentive. Je suis vigilant, c'est-à-dire je veille. Je suis aux aguets. Je m'attends à ce que d'un moment à l'autre, l'ennemi surgisse. Voyez-vous? Dès que je sens quelque chose qui va à l'encontre de ma communion avec le Seigneur, je réagis tout de suite. Être vigilant, voyez-vous. Et c'est ça, tout le sens de ce message prophétique, de cette mise en garde de la part de l'apôtre Paul aux responsables de l'église d'Éphèse. Soyez vigilants, veillez sur vous-même, sur votre communion avec le Seigneur, veillez sur la parole que vous enseignez. Et l'apôtre Paul dira à Timothée qui a eu à diriger cette église d'Éphèse, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Voyez-vous, c'est pourquoi n'importe qui ne devait pas et ne doit pas se lever et se mettre à enseigner. Même si nous enseignons, nous prêchons depuis de nombreuses années, nous devons toujours, à un certain moment, mes amis, nous asseoir pour essayer de voir si l'enseignement que nous apportons à l'Église, si les prédications que nous faisons reflètent la vérité apostolique, amènent les gens à s'améliorer, amènent les gens à croître dans la connaissance du Seigneur, et dans sa grâce. Veille sur toi-même. Le message que Paul a adressé à Timothée. Et puis ça rejoint ce message qu'il avait déjà adressé bien avant aux anciens d'Éphèse. Soyez donc vigilants par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à l'assemblée. Voyez-vous, veillez, afin qu'il n'y ait personne du milieu de vous qui se lève et commence à prêcher n'importe quoi. Et se mettent à dire n'importe quoi. Aujourd'hui, dès que quelqu'un dit « Je suis prophète », tout le monde l'applaudit. Attention, mes amis, notre âme coûte cher. Voyez-vous, nous valons plus que tout l'or, tous les diamants de l'univers. Et on ne peut vivre qu'une fois, nous dit la parole. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous n'avons que cette vie, mes amis, pour marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas de salut post-mortem. C'est-à-dire, on ne peut pas être sauvé après la mort. On a beau organiser toutes sortes de cérémonies en votre mémoire, on a beau célébrer ceci ou cela, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, que toutes ces célébrations, toutes ces prières qui peuvent être faites en faveur d'un mort, n'ont aucun impact sur sa destinée, sur son destin. Il est grand temps que nous nous réveillons. Si quelqu'un meurt dans ses péchés, eh bien la Bible est formelle là-dessus. Il aura affronté la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas essayer de brocanter la parole de Dieu, essayer de la diluer, de la galvauder pour plaire à certains esprits intellectuels. Non ! Restons dans la simplicité, mais dans la clarté de la parole de Dieu. Et enfin, et c'est ça notre pensée d'aujourd'hui, après les avoir mis en garde, après les avoir amenés à veiller sur le troupeau, il les confie, il les remet, nous l'avons lu. Et maintenant, je vous confie à Dieu, je vous remets à Dieu. Il ne le remet pas entre les mains d'un prophète en disant, voilà, il viendra un prophète duquel j'ai un témoignage extraordinaire concernant son onction. Un prophète, quelle que soit son onction, reste un pécheur sauvé par grâce. Voyez-vous, un pasteur, quel qu'il soit, quand bien même il s'appellerait Joseph Bondo, il reste un être humain avec ses faiblesses. Voyez-vous, nous devons nous placer entre les mains du Dieu vivant, du divin potier. Lui seul est capable de nous garder. Lui seul est capable, mes amis, de nous changer, de nous transformer et de faire de nous des créatures qui rayonnent pour sa gloire. Faire de nous ce que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il les confie d'abord à Dieu. Puisque c'est l'église de Dieu, cette église qui s'est acquise par son propre sang, eh bien, la démarche de Paul est tout à fait normale. Je vous confie à Dieu. Je vous remets à Dieu. Et il ajoute, deuxièmement, et à la parole de sa grâce. Oh, alléluia. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance, qui a la vertu, mes amis, de quoi? Eh bien, d'édifier. Oh, alléluia. De construire, de bâtir le caractère du Seigneur dans chacun de nous. In fine, l'Église a besoin de la parole. L'Église a besoin de demeurer dans la parole. L'Église a besoin d'être portée par la parole. C'est donc la place qu'occupe la parole de Dieu dans le cœur et au sein de l'Assemblée qui fait toute la différence. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Cette parole, la seule qui a la puissance de nous édifier, la puissance de nous transformer. Soyez transformés, dira Paul aux Romains, chapitre 12. Soyez transformés, soyez transfigurés, soyez métamorphosés. Comment ? Par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez en mesure de comprendre, de discerner la volonté de Dieu pour vous. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Soyez transformés. Comment ? Par le renouvellement de l'intelligence. Et quel est, mes amis, l'élément qui a cette puissance de renouveler notre intelligence, avec comme conséquence, nous transformer en l'image du Seigneur ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole qui a la puissance d'édifier. Cette parole vient à nous sous forme de prédication, comme c'est le cas maintenant. Je vous prêche cette parole, alléluia. Cette parole vient à nous sous forme d'un enseignement, d'une présentation systématique, d'un concept, d'une idée ou d'une pensée tirée de la parole. Ainsi, on peut faire une étude sur le salut, c'est-à-dire quelle est la doctrine, quel est l'enseignement fondamental de la Bible sur le salut. On peut faire une étude sur le baptême dans le Saint-Esprit, son importance, sa nécessité. On peut faire une étude sur la personne du Saint-Esprit, sur son action dans l'Église. On peut faire une étude sur la personne de Jésus, qui est-il, etc. Ok. Donc, la parole de Dieu vient aussi à nous sous forme d'enseignement. Et vous devez grandir dans ces enseignements-là. Mais la parole de Dieu peut venir à nous sous forme d'une prophétie. Et souvent, c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Parce que nous avons une compréhension erronée qui est due à une mauvaise interprétation de la notion de prophétie, d'abord dans le contexte vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, mais aussi dans le contexte du Nouveau Testament. Voyez. Quand on parle dans le livre des Actes, qui nous retrace l'évolution de l'Église dans l'espace et dans le temps, et encore une fois, Luc, l'auteur du livre des Actes, a fait le choix. Mais il y a eu plus que ce que nous trouvons dans le livre des Actes. Voyez, on ne nous dit pas ce que les autres apôtres ont fait. Ça commence avec les 120, avec le 12, c'est-à-dire les 11 qui auront été rejoints par l'autre, comme Matthias. Et puis, à un moment, ça va se concentrer sur Jean et Pierre. Vous voyez, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Et on parle d'eux, etc. Mais en traitant les autres apôtres, travaillaient, oui ou non? Et tous avaient reçu ce mandat d'aller dans le monde entier, de prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas eu que Jean et Pierre, voyez-vous, qui ont prêché. Et puis ensuite, avec la conversion de Paul, eh bien Luc va concentrer toute son attention sur le ministère de Paul, sa rencontre avec le Seigneur, puisqu'il aura à un certain moment été avec lui, il l'aura accompagné dans ses voyages. Donc, et c'est comme ça que lorsque Paul monte sur la scène biblique, eh bien, les autres s'effacent. On le retrouve un tout petit peu à la conférence de Jérusalem, acte 15. Mais sinon, tout tourne autour de l'apôtre Paul. Mais cela ne veut pas dire que les autres apôtres n'ont pas travaillé. Ils ont continué à prêcher. Voyez. Mais, dans le livre des actes, nous voyons que toute l'attention est concentrée sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui prêche l'évangile. Dans ce voyage, il a eu à rencontrer un prophète comme Agabus. Mais Luc en parle. Il ne s'arrête pas là pour s'attarder sur la vie de ce prophète. Ce prophète est venu, il a confirmé ce qui attendait Paul à Jérusalem. Qu'il allait être lié, qu'il allait être livré par des juifs religieux fanatiques intégristes. C'est tout. Et puis il disparaît. Et l'attention reste sur Paul. Non pas parce qu'il s'appelait Paul, mais sur la manière dont il accomplissait la vocation qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Être l'apôtre des païens. Alléluia. Aller dans le monde entier, prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour peu que quelqu'un reçoive une prophétie, il y en a, reçoive ce don-là de prophétie, c'est fini. Il pense qu'il devient spécial. Voyez? Certains quittent même leur assemblée pour commencer leur propre ministère et se mettre à aller de maison en maison, voulant fonctionner comme à l'époque de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit descendait sur certaines personnes, surtout pour leur donner la capacité d'accomplir des tâches reçues de la part du Seigneur. Dans la Nouvelle Alliance, tous ceux qui sont en Jésus sont habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est libre d'opérer ses dons comme il le veut, comme il entend. À l'un, il donne tel don. Il fait tel don. À l'autre, tel autre don. Et la Bible est d'ajouter que tous ces dons sont là pour l'édification du corps. Mais les dons ne sont pas là pour permettre à certaines personnes d'équiter pour essayer de faire cavalier seul. C'est comme ça que beaucoup n'ont pas été loin. C'est comme le don de la chanson. Nos chanteurs chrétiens. Pour peu que quelqu'un commence à avoir un peu de succès, il pense que c'est fini. La prochaine étape, c'est être pasteur. Oui ou non? Il y a des gens qui chantent. Si vous leur posez la question, qui est votre pasteur? Ils disent, non, mais moi j'ai mon église. Alors aujourd'hui, on ouvre des églises. Moi j'aimerais que les autorités sévissent un peu.
Parce que ce qui se passe, c'est du désordre. C'est du désordre. Des églises les unes à côté des autres. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous pensez que le Seigneur ne voit pas que tout cela contribue à affaiblir son Église? Mais nous savons tous, c'est par opportunisme. C'est devenu une manière de vivre. C'est une manière d'avoir une place dans la société. Arrêtez, vous les opportunistes. Vous les aventuriers, allez travailler. Allez faire les mines, allez faire tout ce que vous voulez, lancez-vous dans le commerce et continuez à fréquenter les églises. Il n'est pas dit que tout le monde doit être pasteur. Non, aujourd'hui, dès que quelqu'un sait bien prêcher, il va à l'école biblique, il en sort, il est pasteur. Il ouvre une église. Oui, et puis ça s'ouvre les unes à côté des autres. Et ça, ça envoie une très mauvaise image aux non-chrétiens. Parce qu'ils se disent, c'est ça l'église. Et dans ce genre d'église, on trouve des pratiques qui ressemblent plus à l'occultisme qu'à autre chose. Donc nous devons faire très attention. La parole nous vient sous forme prophétique. Mais encore, il faut que cette prophétie nous amène à accomplir la volonté de Dieu. La prophétie n'a rien à voir avec la divination. Et aujourd'hui, les gens cherchent à connaître leur avenir, à savoir ce qui les attend. Parce que, comme avec Paul, le Seigneur lui avait déjà révélé. Oui, de temps à autre, le Seigneur peut nous révéler. Moi-même, j'ai des témoignages. Mais ces révélations ne prendront jamais et ne doivent jamais prendre la place de la parole de Dieu. Paul leur dit, je vous laisse, je vous confie à Dieu et à sa parole, mes amis. À la parole de Dieu, c'est elle qui édifie. C'est elle qui peut être changée. Il y a des gens aujourd'hui qui le regrettent parce que leur vie a mal tourné. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une prophétie. Ils ont fondé toute leur foi, leur confiance sur la prophétie. Et puis un jour, cela n'a pas marché. La prophétie n'a pas vocation à nous détacher de Dieu. Non. Dès qu'un homme commence à vous donner des prophéties et vous amène à dépendre de lui, c'est que cela ne vient pas de Dieu. C'est pour la liberté que Christ est mort. Il nous a délivrés de toute forme d'esclavage. Et il veut que nous soyons ses esclaves à lui et non pas les esclaves d'un homme. Aujourd'hui, il y en a qui appellent. Oh, j'ai reçu une prophétie. Voilà. Et même pour donner ça, il faut qu'il se filme, que tout le monde sache, dans le monde entier, que lui avait reçu une prophétie pour telle ou telle autre personne. Je ne sais pas à qui je disais, je ne sais pas si à mon épouse, j'ai dit, enfin, je ne sais pas à qui, j'ai dit, c'est quand même bizarre. La plupart des gens qui reçoivent des prophéties sont toujours des gens bien assis dans la société. Oui ou non? Ah oui. Enfin, je ne sais pas, hein, si un enseignant, il y a des enseignants au milieu de nous, il y a des enseignants, n'ayez pas honte, vous faites un travail noble. Levez simplement la main. Est-ce que des prophètes sont déjà venus vers vous? Ah. Non, oui, oui. Donc vous, vous n'existez pas. Il y a des fonctionnaires. Hein? Pas les secrétaires généraux. Des simples fonctionnaires. Il y en a? Levez les mains. Est-ce que vous avez déjà reçu un prophète qui est venu? Je vous ai vu. Voilà. Voilà. Je vous ai vu. Vous aviez vos, pour les enseignants, vous aviez des chaussures comme des pirogues, parce que vous n'avez rien. Je vous ai vu. Avec un cartable, vous alliez à l'école. Vous alliez à l'école abattu. Et puis à un moment, vous êtes arrêté quelque part, attendant un taxi-bus, et puis c'est une moto qui est arrivée. Juste au moment où vous vouliez prendre la moto, quelqu'un d'autre, un jeune, plus jeune que vous, a pris la moto. Vous avez commencé à dire et tout ça. Je vous ai vu tout d'un coup. Un aigle est arrivé. Et puis l'aigle vous a pris. Et Dieu m'a dit, il va vous élever. Donc l'élévation, que pour les gens les hommes politiques et les femmes politiques, l'élévation, ce n'est que pour les sénateurs, les parlementaires, pourquoi les enseignants, eux, ne reçoivent pas des prophéties? Réfléchissez. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le projecteur prophétique ne se brancherait ou ne se tournerait que vers ceux qui ont des moyens. Alors, ça serait un Dieu qui ne s'occupe que d'une certaine classe sociale. Mais Dieu pour tous. La parole. Donc, elle vient sous forme de prophétie. Nous le croyons, nous sommes des pentecôtistes. Mais la prophétie telle que nous l'entendons aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Les gens ne se sont pas appuyés sur Agabus. Agabus n'a pas ouvert une église. Je crois que c'était à Prétyre, en descendant. Oui. Non? En disant, voilà, vous avez vu? Oh là là là. Lui, c'est comme un téléviseur. Il voit tout. Vous voyez? Il a vu ce qui va arriver à Jérusalem alors que nous sommes ici. Dieu lui montre. La Bible ne nous dit pas qu'on est allé chercher les gens. Allez, venez. Séance de prophétie. Asseyez-vous. Il va vous dire. Il avait parlé à Paul, hein? Non, on distrait les gens. Si tu as reçu ce ministère, d'ailleurs la Bible le dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, dans le but qu'ils se mettent en évidence? Non, mais pour le perfectionnement des saints. Oh, alléluia. Pour contribuer à faire grandir l'œuvre de Dieu. Et le prophète et l'apôtre, ce ne sont que des pécheurs sauvés par grâce. Le fait d'être apôtre n'apporte rien de spécial à notre valeur. Nous sommes tous logés à la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Qu'on soit pasteur, qu'on soit prophète, évangéliste, qu'on soit enseignant. D'ailleurs, vous aurez remarqué, hein, et là, moi, je vous laisse le temps de réfléchir. Qui donne le ministère? Répondez, c'est le Seigneur. Il a donné les uns comme apôtres. Donc il appelle. Est-ce qu'il faut aller dans une école pour être apôtre? Bien. Il a donné les autres comme pasteurs. C'est qui appelle? Il a donné les autres comme évangélistes. Il n'y a pas une école. Il y a des écoles où on prépare ceux qui ont reçu le ministère d'évangéliste pour savoir comment. Mais ce n'est pas ces écoles-là qui donnent le ministère. Il a donné le ministère de prophète. Est-ce qu'il y a une école? Alors les gens confondent, ils vont dans l'Ancien Testament, quand on parle des écoles de prophètes, mais il faut remettre toujours les choses dans leur contexte. On reviendra. Et puis il a donné les autres comme, dit très fort, docteur. Qui donne? Mais regardez dans nos églises, nous reconnaissons docteurs ceux qui ont fait une soutenance de thèse. Ah, oui ou non? Il faut aller dans une faculté. Oui, ça c'est un grade académique. Mais le docteur ou l'enseignant, c'est un ministère. Donc on devrait reconnaître des gens comme enseignants de la Bible, non seulement parce qu'ils ont été faire soutenir une thèse, mais parce qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu au niveau de l'enseignement. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, c'est la Bible. C'est la Bible. Maintenant, vous pouvez avoir un doctorat en théologie. Cela ne veut pas dire que vous avez reçu le ministère d'enseignant. Moi, je connais beaucoup de docteurs en théologie. J'ai eu des enseignants qui... Ils n'ont jamais été... D'ailleurs, quand ils parlaient du Seigneur, c'était toujours en des termes méprisants. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont docteurs, même en Bible, puisque dans certaines facultés, dans certaines universités en Occident, vous avez les sciences bibliques, docteurs en sciences bibliques. Là aussi, il faut réfléchir. Hein? Moi, je voudrais que vous vous mettiez à réfléchir. Pourquoi dans nos églises, nous ne reconnaissons pas ce ministère de docteur
au point où il faille que la personne passe par une soutenance de thèse, à ce moment-là, nous le reconnaissons. Alors la question que je me pose, nous le reconnaissons parce qu'il a soutenu, ou nous le reconnaissons parce qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu? C'est une bonne réflexion, non? Il faut réfléchir. Il faut vous poser des questions. Voilà. Donc, bref. La puissance d'édifier. La parole sous forme prophétique. Elle peut nous venir sous forme d'une vision. Lisez les prophètes. Quand ça vient de Dieu, cette vision-là, et que nous la recevons, et que nous marchons selon cette vision, eh bien, nous agissons selon la parole qui est venue à nous sous forme de vision. Voilà. Allez lire Zacharie, allez lire Ézéchiel, allez lire Ésaïe, Jérémie et tant d'autres. Ils ont reçu des visions, ils ont marché en fonction de ce qu'ils avaient reçu, et par conséquent, ils ont accompli la volonté de Dieu. Pour autant que ces visions nous viennent de la part de Dieu. Alors, puisque le diable est capable de perturber les gens au niveau de l'interprétation de la Bible, d'amener les gens à prêcher le mensonge, eh bien, sachez aussi que le diable est capable de vous inspirer de fausses prophéties. Voilà. Ne soyez pas naïfs. Voilà. Ah, le prophète a dit, moi je vais bien. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui a parlé par ce prophète, à qui la gloire? Pas au prophète, hein? Mais lorsque maintenant le prophète, eh bien, pense que, puisqu'il a donné telle prophétie, il a donné tout cela, s'est réalisé. À un moment, il pense maintenant qu'il est devenu spécial, c'est là que le bât blesse. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Non, il n'est qu'un outil. Il n'est qu'un outil. Voilà, un outil que Dieu utilise. Voyez-vous? Il n'est qu'un panneau indicateur. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Voilà. Le panneau indique la direction. Voyez-vous? Maintenant, nous avons des panneaux, hein. Quand vous arrivez à Matete, avant de prendre le pont Matete, vous avez des panneaux, non? Voilà. Qui vous montrent que voilà, là vous allez vers Kingaboa, là vous allez vers. Voilà le rôle de ces panneaux. Ces panneaux ne sont pas faits pour que vous les admiriez. Vous arrivez là-bas, dites, oh là là, joli panneau, quelle écriture. Un beau bleu, oh, formidable. Ah, le L là. Et c'est le but du panneau. Quand on arrive là où il y a le panneau, eh bien, le panneau vous indique, voilà, la direction. C'est ce que nous sommes. Et la direction, c'est une personne. Et le chemin qui conduit dans cette direction, c'est une personne. Jésus de Nazareth, alléluia. Dieu peut nous parler au travers d'un événement, d'une circonstance. Nous en parlerons quand je vais amorcer une étude, un enseignement sur la marche par le Saint-Esprit. Voilà. Par un événement, Dieu peut nous parler. Voyez-vous, il dit, tiens, ça c'est Dieu qui me parle, c'est le moment de me lever et de partir. Cet événement, c'est Dieu qui me dit, non, tu ne dois pas aller dans cette direction-là. Tu dois attendre. Contente-toi de ce que tu as. Dieu seul le sait. Quand je m'arrête alors que j'avançais dans cette direction, tout d'un coup, des choses difficiles, et puis Dieu me donne le discernement, et puis je réalise que non. Ces événements ne peuvent pas être fortuits. J'avais demandé à Dieu, je lui avais dit ceci, je lui avais dit cela, et je vois les événements tels que j'avais demandé à Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui me parle, je n'avance pas. Seigneur, maintenant j'attends que tu me donnes l'autre directive. Quand on agit de cette manière, on agit selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà comment cette parole peut nous conduire. Et toujours en rapport avec la parole écrite. Voilà. Parce que c'est la parole écrite qui va nous permettre de savoir si ce que nous faisons est bien. Parce qu'il y a deux choses. À un certain moment dans la conduite du Saint-Esprit, où c'est les choses que Dieu nous demande ne sont pas moralement mauvaises. C'est-à-dire, je dois prendre une direction dans les affaires, dans le mariage, etc. Et je m'arrête, je commence à prier. Et j'attends. J'attends que le Seigneur m'aide. Donc, ce n'est pas mauvais d'épouser tel, ce n'est pas mauvais. Donc, on ne doit pas réfléchir en termes de mal. mais plutôt en termes d'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce Dieu que j'ai rencontré, il a tracé une voie pour moi. Et dans cette voie, avec qui marcherai-je? Voilà. Ça, ce sont des questions, jeunes filles, jeunes gens, que vous devez vous poser. Voyez-vous, on ne se marie pas simplement par plaisir. Oh, elle est très belle. Oh là 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 là, formidable. Elle transpire la beauté. Voilà. Oh, il est très beau. Quelle prestance. Ça, c'est un homme. Quand il mange, je suis convaincu que même le ciel bouge. Voyez. Et quand on épouse comme ça, mais vous épousez une apparence. Vous épousez un vase. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le vase. Ce qui est important, ce n'est pas tant la beauté du vase. Parce que le vase là, quelle que soit sa beauté, peut contenir du poison. Vous vous sautez sur le vase. Oh là 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 là. C'est un vase en malachite. C'est un vase en bronze. Et puis vous vous mettez à boire. Et puis quelque temps après, vous mourrez. Ce qui fait normalement un vase, un véritable vase pour la vie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quel est le contenu? Est-ce le monde qui remplit la personne? Un homme rempli de la soif d'argent, rempli des plaisirs de ce monde? Ou alors c'est un homme rempli du Seigneur? Même si présentement il n'a rien. Jeune fille, aujourd'hui il n'a rien. Vous ne savez pas ce qui serait demain. Vous pensez que quand maman Denise, je me permets de parler d'elle et je la salue, a épousé un certain Félix Tshisekedi, vous pensez qu'elle pouvait s'imaginer que l'homme qu'elle épousait deviendrait président de la République? Peut-être que Dieu seul sait qui lui avait fait la morale et dit toi aussi. Toi tu es de qui? Tu vas chercher quelqu'un du Kassai. On ne sait jamais, hein. Voilà, c'est ça. Ne méprise personne. Ce jeune homme qui est là, qui n'a rien, Dieu seul sait ce qu'il adviendra de lui dans 20 ans. Cette jeune fille qui connaît un parcours difficile sur le plan académique, Dieu seul sait. Peut-être avec ce parcours, un jour, vous apprendrez qu'elle est vice-directrice au FMI. Vous commencez à vous dire, mais tiens, mais on était avec elle à Loupio. C'était une élève médiocre. Voilà. Alors que nous, on venait nous chercher en voiture, ses parents n'avaient rien, sa maman l'attendait pour prendre un taxibus. Et puis, mais il a étudié où? Elle a étudié où? Elle a dit non, elle était partie à l'Unikin. Et puis un jour, par un concours de circonstances, quelqu'un passait par l'Unikin, un professeur, et puis tout d'un coup, quelque chose l'a attiré. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais comme étude? Oh, je fais l'économie, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une bourse? Je me souviens, je vous avais donné ce témoignage d'un étudiant à Lumbashi. Hein? Il prend l'avion pour venir ici. Et là, à bord de l'avion, un homme l'approche, un blanc. Il commence à tailler bavette avec lui. Ils échangent tout ça. Il lui dit, je suis étudiant. Il dit, ah, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une bourse? Dans les années 80. Ah, oh, mais il n'attendait que ça. Elle dit, oui, voilà mes coordonnées. Quand vous arrivez à Kinshasa, vous passez à l'ambassade. Et puis ça a été vite, il a pris l'avion, il est parti en Europe étudier. Vous voyez, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Servez le Seigneur. Ne vous préoccupez pas de ce que vous serez demain. Laissez-le vous conduire. Un pas à la fois. Vous allez passer par des moments difficiles, il sait pourquoi. Ce sont les épreuves qui nous forment. Gloire à Dieu. Et enfin, et nous allons terminer par là, la parole qui a le pouvoir de vous donner l'héritage. C'est quoi l'héritage? C'est tous ces biens que le Seigneur a en réserve pour ses enfants, pour les saints, pour ceux qui sont en Jésus. Il y a un héritage pour toi, mon frère et ma sœur. Voyez-vous, tu ne peux entrer dans cet héritage, tu ne peux expérimenter, eh bien, cet héritage que si tu te laisses porter par la parole. Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule a la puissance, 1,
de vous édifier, et puis deux, de vous donner l'héritage, de vous faire entrer dans l'héritage. Dieu a beaucoup de bonnes choses en réserve pour toi ce matin. Il sait ce que tu seras demain. Il sait ce que tu seras dans 10 ans. Il a déjà tout planifié. Il a en réserve des bénédictions et des grâces. Alors pour arriver à entrer dans cet héritage, que nous pourrions utiliser un autre terme, entrer dans cette destinée-là, laisse-toi porter par la parole. Mais ne te laisse pas distraire par un homme, quel que soit son charisme. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons nous confier en toi et en toi seul. Certes, tu peux utiliser telle ou telle autre personne pour nous donner une prophétie afin de confirmer ta volonté dans nos vies, afin de nous donner une certaine direction. Certes, tu peux mettre sur notre route quelqu'un qui nous apporterait une parole d'encouragement sous forme d'une vision. Mais en aucun cas, ô Dieu, Seigneur, tu attends de nous que nous puissions nous tourner vers ces personnes-là et se mettre à dépendre d'elles. Non, tu veux en tout et pour tout que nous dépendions de toi. Alors aide-nous à nous laisser porter par ta parole. Aide-nous à manger ta parole, à la savourer, à la dévorer, Seigneur. Car cette parole est la seule qui a cette capacité, cette puissance, cette vertu de nous édifier, de nous transformer et de nous faire ressembler à toi. Mais cette parole est la seule qui puisse nous faire entrer, Seigneur, dans notre héritage, dans notre destinée, pour que nous puissions jouir de tous ces biens, de toutes ces grâces que tu en réserves pour nous, aujourd'hui, demain et après-demain, la réserve pour 10 ans, pour 20, pour 30 ans, toi seul sais. Et ce qui vient de toi est inépuisable. Tes bénédictions ne s'épuisent jamais. Merci pour tout. Aide-nous à te demeurer fidèles. Merci également de bénir ce moment, Seigneur, où nous voulons récolter nos offrandes. Merci pour cette grâce de contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton règne, à l'avancement de ton royaume ici-bas, bénis toutes ces personnes qui, par leur fidélité, par leur engagement vis-à-vis de toi, soutiennent l'œuvre ici à la borne, et au travers de la borne, soutiennent l'œuvre, Seigneur, au-delà, tous ces pasteurs, Seigneur, pour lesquels, ô Dieu, nous payons, et que nous payons, Seigneur, merci pour tout. Bénis ces paniers au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.